Voilà, bonjour à tous. Une nouvelle fois, bienvenue à l'église chrétienne du plateau. L'église, ce n'est pas premièrement le bâtiment, l'église, c'est nous. Et vous avez vu en partie donc l'œuvre de Jésus ce matin à travers la vie de nos frères, de notre sœur. Littéralement, on vit pour ça, pour voir des gens s'engager, aimer Jésus. Et parler de ce qu'ils ont reçu en lui et puis voir d'autres vies transformées à travers son œuvre en nous. On va lire ensemble la parole de Dieu et après ça, donc, je voudrais donner un encouragement, un partage donc, pour, premièrement pour nos amis qui se sont fait baptiser et puis aussi pour toute l'Église. Nous sommes dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 10 à 17. Il nous est dit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. » À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. On va prier courtement. Seigneur, merci de nous faire du bien par ta parole, merci de nous encourager, de nous relever pour ceux qui souffrent. Merci Seigneur de nous ancrer encore en toi, que Jésus soit vraiment le centre de nos vies et que nous puissions toujours mieux apprendre qui il est par ta parole. Nous comptons sur toi, te prions au nom de Jésus. Amen. On va parler ce matin d'une église équipée. J'ai lu et relu l'histoire d'un monsieur qui parlait de son meilleur ami. Son meilleur ami, il l'a connu lorsqu'il était en septième année à l'école. Et l'une des choses qui l'a marqué à propos de son meilleur ami, c'est qu'un jour, il devait faire un exposé. Et donc, il est arrivé avant tout le monde dans la classe. Et il avait préparé pour son exposé un bureau qu'il avait mis devant tout le monde. Et il était déjà assis, il a invité tout le monde à s'asseoir pour son exposé, et même son professeur, j'imagine qu'elle était très contente. Et la professeure s'est mise au fond, tout le monde est entré. Il a commencé à faire un exposé sur le fait d'être bien équipé, le fait d'être bien préparé. Il a expliqué les mesures qu'il fallait prendre lorsqu'on a une tâche, une mission à accomplir, la préparation préalable qu'il faut. Il a détaillé l'agenda, l'horaire. Il a parlé du fait d'être prudent dans sa manière de gérer son temps. Il a parlé ensuite du fait que quand on accomplit sa mission, il faut utiliser les différents outils à sa disposition. il faut travailler avec zèle, avec ardeur. Son exposé était tellement extraordinaire que la professeure lui a dit, écoute, il faut que tu prennes des cours encore pour non seulement travailler ton don d'orateur, mais pour devenir un meilleur leader, un meilleur dirigeant, parce que je vois que tu as de l'avenir. Et l'élève était très content. Il a dit, merci beaucoup, madame. Il s'est levé et il est sorti de la salle parce qu'il avait oublié son pantalon. Il n'était pas bien équipé du tout. Et à l'instar de ce garçon, parfois, l'Église peut mal s'équiper. Elle peut être très mal préparée. Et c'est pour ça que Paul livre ici à Timothée des ingrédients pour que l'Église soit bien équipée, que lui soit bien équipé, mais que l'Église aussi soit bien équipée. On va voir deux choses ce matin, simplement. On va voir l'équipement contre la persécution, et puis on va voir deuxièmement l'équipement pour vivre dans les ultimes générations, dans les temps qui sont les derniers, simplement. Pour rappel, Paul écrit cette lettre à Timothée pour l'exhorter, l'encourager à demeurer fidèle à Jésus, à résister aux mauvais enseignants et puis à leur influence à Éphèse. Si vous n'étiez pas là, nous vous invitons à revoir le message de la semaine passée où nous avons vu donc justement l'impact qu'a eu ou qu'ont eu les mauvais enseignants, les mauvais docteurs à Éphèse sur l'Église. La première chose donc que nous devons voir, c'est l'équipement contre la persécution. Si vous voulez être équipé contre la persécution, vous devez vous rappeler que la persécution dans notre passage est présentée sous trois aspects. Premièrement, la persécution est injustifiée. La persécution est injustifiée. Paul, il a été aimant. Vous avez vu à partir du verset 10, il parle de l'enseignement, de sa conduite, il parle de sa patience, de son amour, de sa persévérance, pas seulement envers l'Église, mais surtout lorsqu'il annonce l'Évangile à d'autres personnes, il ne leur montre pas simplement un visage dur et méchant. Nous ne sommes pas là pour condamner les gens. Nous ne sommes pas là pour simplement leur dire combien ils sont mauvais. Ce n'est pas notre but premier. Jean-Michel nous l'a rappelé tout à l'heure, l'Évangile commence par une mauvaise nouvelle, mais il n'est pas qu'une mauvaise nouvelle, il est une bonne nouvelle. Nous disons aux individus que dans notre vie, nous avons constaté, c'est la règle de l'humanité, qu'il y a des éléments qui manquent, il y a une prédisposition à fuir loin de Dieu au lieu de se rapprocher de lui. Et ça ne fait pas plaisir, et Paul avait annoncé cette mauvaise nouvelle, mais il avait annoncé la bonne nouvelle. Il avait dit que Dieu cherchait à se réconcilier avec les êtres humains. Là où les êtres humains fuient loin de Dieu, eh bien Dieu se rapproche d'eux. Il ne les laisse pas là, seuls, dans leur misère et leur désobéissance. Et Paul a été aimant, il a été patient envers l'Église, envers ses opposants. Et comment a-t-il été repayé? Eh bien, on l'a récompensé par de la haine, par de la colère, par des insultes et par des coups de pierre. Son propre peuple, les Juifs, ont détesté et ils ont haï Jésus et tous ses envoyés. Il parle d'amour, il parle de réconciliation. Et vous pourrez relire dans votre Bible le livre qu'on appelle le livre des Actes. Vous allez vous apercevoir que les chrétiens du premier siècle, ils avaient la vie dure. Entre la prison, entre les décapitations, entre les lapidations, Ça, c'était leur vie. La persécution chez les chrétiens, normalement, elle est injustifiée. Nous essayons de parler et d'agir avec amour, et en retour, on nous déteste. Et si on veut être une église qui plaît à Christ, on doit être prêt à cela. Deuxièmement, la persécution n'est pas seulement injustifiée, elle est variée. Paul nous dit, contemple toutes les souffrances que j'ai subies. Paul a été battu, il a été fouetté, il a été méprisé, il a été battu à coups de pied, il a été lapidé, et pendant qu'il écrit à Timothée, il est emprisonné, et bientôt, sa tête ne sera plus sur ses épaules, littéralement. Il cite le psaume 34, verset 20. Il dit, écoute, Timothée, tu vois, j'ai subi tout cela. Mais il n'est pas battu, il n'est pas morbide. Paul ne fait pas de crise de dépression, là. Il est en train de dire, beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il n'est pas défaitiste, là. Il n'a pas subi tous ces coups-là en se disant, oh, pauvre de moi, regarde comment on m'a détesté. Il dit, non, non, Dieu m'a toujours délivré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la persécution ne sera pas seulement la peine capitale ou l'emprisonnement, frères et sœurs. Il est évident que nous, ici, au Québec, on n'est pas persécutés comme Paul. La plupart d'entre nous n'avons pas été lapidés, n'avons pas été battus, nous n'avons pas été fouettés. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont été rejetés, ostracisés, ils ont été méprisés. Certains d'entre vous, les membres de votre famille ne vous parlent plus depuis longtemps. Certains d'entre nous, nos enfants, ne veulent rien savoir de notre foi. La persécution est variée, chers amis. Nous pouvons souffrir pour Jésus encore aujourd'hui, même dans le confort de nos sociétés occidentales. Et c'est normal. Il faut être prêt. Troisièmement, la persécution, elle n'est pas seulement injustifiée et variée, elle est avérée, elle est certaine. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Point. Si vous voulez suivre Jésus, à un moment, il faudrait s'attendre à ce que nous ayons de l'opposition. Jésus lui-même a été l'incarnation de ce principe. Jésus est venu, celui que nous servons, que nous aimons, que nous adorons, même si nous ne l'avons pas vu, il est venu ne faisant et ne disant que du bien. Notre Seigneur Jésus guérissait des gens malades. Il relevait des morts et des mortes. Des personnes étaient littéralement dans la tombe, en train de pourrir, de se décomposer, et Jésus disait, non, tu vas vivre, sors de là, et Jésus les faisait revivre. Comment l'a-t-on récompensé? Jésus a fini torturé sur une croix. Et permettez-moi de vous dire, et je le dis sans méchanceté, je souris toujours un peu quand... les personnes évoquent Jésus aujourd'hui. Parce que, bien entendu, elles n'ont pas lu l'Écriture de manière sérieuse et Jésus est toujours représenté pour ceux qui essayent de le connaître comme quelqu'un de sympathique, comme quelqu'un qui prêche un message d'amour et puis qui a mal fini le pauvre. Et puis, dans ces projections-là, souvent on se dit, tu sais, si Jésus était venu de nos jours, rappelle-toi, il aurait été avec... les gens qui n'ont pas de maison, il aurait été avec les défavorisés, il aurait été avec les drogués, il aurait été avec les gens comme nous. On se dit, oui, Jésus, on l'aurait aimé, il aurait été notre chum. Chers amis, lorsqu'on a dit crucifie, crucifie, lorsqu'on a proposé de tuer Jésus, il n'y avait pas un défenseur qui est venu à son secours pour dire, mais non, faut pas. Les gens qui l'ont aidé ne se sont pas retrouvés là à le secourir, ils étaient tous partis, ils avaient peur. Et Jésus lui-même le proclame dans Jean 15, versets 18 à 25. Jean 15, versets 18 à 25, je voudrais que vous puissiez le lire avec moi cela. Jean 15, versets 18 à 25, vous lirez dans votre version, je lis dans la colombe. Jean 15, 18 à 25. Ici, Jésus s'adresse premièrement à ses apôtres. Il ne nous parle pas directement. Il parle à ses apôtres, à ceux qu'il aime, avec qui il a passé 3 ans et demi, qui sont de vrais amis pour lui. Il leur dit, au verset 18, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jésus dit, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. » Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie, ils m'ont haï sans cause. La plupart d'entre nous n'ont pas souffert comme Jésus, ils n'ont pas souffert comme les apôtres. Mais une chose est sûre, Paul le déclare ici, la persécution fait partie de la vie chrétienne. Certains vont nous détester sans raison valable. Alors que nous les aimons, alors que nous voulons leur donner le meilleur de nous-mêmes, ils vont nous dire « Non, ça ne m'intéresse pas. » Je pense qu'elle ne m'en voudra pas si je vous partage cette histoire. Une a été élevée par sa tante. L'une de ses tantes, pas par ses parents. Ses parents l'ont abandonnée. Et cette tante-là n'était pas chrétienne du tout. Et à chaque fois que nous allions courir, on essayait de lui dire, tu sais, Jésus, il est venu pour toi. Il est venu pour des gens comme toi. Crois en lui, il va changer ta vie. Ne t'appuie pas sur ce que dit le bouddhisme. Parce que même si tu essaies de vivre une vie où tu te détaches des réalités terrestres pour essayer de t'attacher au nirvana, tu ne pourras pas. Il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours des choses à faire. Tu seras coincé dans ton cycle de réincarnation, ça ne va pas t'aider. Jésus peut te délivrer. Et je me rappelle, un jour on était dans le bus, elle nous emmenait quelque part et puis une avait voulu l'inviter à un temps de partage de l'évangile et puis ma tante lui a dit non. Arrête de m'énerver avec tes affaires. Il y a la femme qui l'a élevé. Et ce jour-ci, il n'y a pleuré, mon cœur était triste, on a prié, et puis on a continué à insister, tout simplement. On a juste attendu quelques jours. Et puis Dieu merci, le Seigneur a œuvré dans son cœur, et puis il l'a changé. Chers amis, certains vont nous détester sans raison valable. Et notre grande problématique, c'est qu'en tant qu'Église, on est parfois mal préparé et on est choqué et surpris que finalement les gens ne sont pas d'accord avec nous. Et je veux bien vous l'accorder, les Québécois sont tellement gentils qu'on se dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'ils disent non à Jésus, ils sont trop gentils. Mais l'Écriture nous rappelle que nous ne devrions jamais être surpris de perdre des amis, de perdre des membres de famille qui vont couper les ponts avec nous, qui vont refuser de nous parler, de perdre des fréquentations, des connexions au travail à cause de Jésus. Parce que Jésus nous a dit que normalement, c'est ce qui doit arriver. Et si ça n'arrive pas, c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce de ne pas être persécuté. Et nos amis qui vivent dans d'autres pays et qui subissent les persécutions, il ne faut pas que vous pensiez qu'ils subissent les persécutions parce que ce ne sont pas de vrais chrétiens. Au contraire, ils sont dans une situation normale de vie chrétienne. Ils sont persécutés à cause de leur foi, on les emprisonne. Je me rappellerai toujours de ce témoignage de cette femme en Orient qui a expliqué comment, parce qu'elle était chrétienne, on l'a séparée de son fils et on s'est débrouillé pour endoctriner son fils. Et quand elle l'a retrouvé des dizaines d'années plus tard, elle l'a juste retrouvé pour qu'il l'insulte et pour qu'il lui dise combien sa foi était ridicule. Et combien en tant que mère, elle avait échoué, elle a préféré suivre Jésus plutôt que de s'occuper de son enfant, ce qui était faux. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Et si nous ne vivons pas cela, c'est simplement que Dieu a décidé de nous faire grâce. Mais préparons-nous. Préparons-nous, frères et sœurs, parce que ce n'est pas normal. Il nous faut mentionner notre deuxième partie, l'équipement pour vivre dans les ultimes générations. On va voir deux choses simplement dans cette partie. On va voir la nécessité d'être fidèle à l'Écriture et puis on va voir la sagesse que l'Écriture donne. La fidélité à l'Écriture. Au verset 14, il nous est dit « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. » L'une des règles élémentaires concernant un équipement, c'est simplement qu'il doit être utilisé. Pour ceux qui ont fait l'armée, le service militaire, le gouvernement vous fournit votre arme, il vous fournit votre équipement, et on vous apprend à l'utiliser. Et les chrétiens aussi ont un équipement. Ils doivent s'en servir de manière efficace. L'Écriture dit premièrement, écoute, il faut que tu restes attaché à ce que tu as appris. Littéralement, tu dois demeurer, tu dois habiter dans ce que tu as appris. Il y a l'idée que Timothée, Paul l'enjoint à ne pas s'éloigner des vérités bibliques précédemment enseignées. Il doit continuer, rester au cœur de la révélation biblique. Et nous notons d'ailleurs que l'apprentissage ne peut se faire dans le vide. On ne peut pas grandir harmonieusement en tant que chrétien avec des enseignements ou des enseignants en ligne. La COVID nous a poussé à basculer à des enseignements en ligne. À tel point qu'à un moment, il y a eu des projets d'église 2.0, l'église en ligne. Et tout le monde se réunissait en ligne, par obligation, mais il y a certains qui, après la COVID, se sont dit « Non, non, on va continuer le concept. On n'a pas besoin de se retrouver physiquement dans un bâtiment. Il faut que nous puissions apprécier les choses en ligne. Nous sommes des êtres aussi spirituels, après tout, donc on fait l'église en ligne. » Je rappelle que si nous sommes des esprits, nous sommes des esprits dans un corps. Nous sommes spirituels. Les êtres humains ne sont pas des machines biologiques. Les êtres humains sont des esprits que Dieu a placés dans un corps. Et on ne va pas pouvoir vivre notre vie soit simplement comme des animaux qui, eux, n'ont pas d'esprit, ni comme des anges qui, eux, n'ont pas de corps. Il faut les deux. Et donc, le savoir doit être incarné dans un enseignement, ou dans un enseignant, pardon. Paul dit, tu sais de qui tu l'as appris. Tu sais de qui tu l'as appris. Et donc, moi, je dois demander, qui est-ce qui vous a enseigné? Qui est-ce qui vous a enseigné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est mis à côté de vous pour vous parler de qui est Jésus et qui vous a guidé, qui a été votre soutien, un père, une mère spirituelle pour vous apprendre la vie chrétienne? Et si vous en avez eu un, à qui enseignez-vous maintenant? Parce que Jésus dit, écoutez, moi, il a envoyé ses apôtres, les 12, pour faire des disciples. Donc, faire des personnes qui allaient apprendre, qui allaient ressembler à Jésus. Si vous êtes un disciple de Jésus, très bien, mais vous devez aussi enseigner vous-même ce que vous avez reçu. Donc, à qui enseignez-vous? Qui est la personne qui est là à côté de vous et qui reçoit une partie de ce que Jésus vous a confié? Paul déclare également que Timothée doit rester fidèle, attaché à ce qu'il a appris et qui est l'objet de sa foi. L'expression peut aussi se traduire « ce que tu as confirmé vrai, ce qui est digne de confiance ». Je veux rappeler rapidement que là où dans le domaine de l'entreprise et de la recherche, on veut constamment innover, l'Évangile contraste. Il n'y a pas d'innovation à apporter au message de la mort, de la vie et de la résurrection de Jésus. Et dans un sens, dans ce sens, l'Église sera toujours plate. Parce qu'on ne va jamais vous annoncer autre chose. On va varier les saveurs, on va mettre un peu plus de sel un jour, mais on va toujours vous présenter le même plat. Jésus est mort, il est ressuscité. Si tu crois en lui, tu vivras éternellement. Et ça ne va pas changer. Depuis 2000 ans, ça n'a pas changé. Même avant le temps de Jésus, on prévoyait déjà l'Évangile. Ça n'a pas changé. Nous n'avons pas d'amélioration à ajouter à l'Évangile. Les doctrines de base de la foi ne sont pas modifiables, ne sont pas changeables selon les saisons, les époques ou les cultures. Le Dieu de la Bible, il est le même que nous soyons dans l'Occident, que nous soyons dans l'Orient. Son Fils est le même, tel que présenté dans l'Écriture, que nous soyons au nord ou au sud. Cela ne doit pas changer. Notons aussi l'impérieuse nécessité pour un chrétien de s'assurer de la véracité des enseignements, ainsi que du caractère biblique de ceux qui enseignent. Nous ne sommes pas là pour transformer les gens, pour leur donner des lavages de cerveau, pour qu'ils puissent répéter verbatim ce que nous disons du haut de la chair. Nous vous enseignons tout cela pour que vous puissiez toujours réfléchir, et je me permets de le redire, tout ce qui est dit du haut de la chair doit être écouté, doit être analysé. Est-ce que ce qu'on m'enseigne est correct? Est-ce que c'est ce que je vois vraiment dans le passage? Est-ce que c'est ce que Dieu me demande de faire? Si c'est le cas, je l'applique. Deuxièmement, dans cette deuxième partie, nous devons parler de la sagesse de l'Écriture. Paul dit à Timothée depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. On peut se demander, mais Timothée était déjà sauvé. Pourquoi on parle de sagesse en vue du salut? Eh bien, laissez-moi rappeler que la sagesse dans la Bible, dans la pensée hébraïque, elle a deux significations. Premièrement, la crainte du Seigneur et la compréhension de ses voies. La crainte ici n'est pas une peur panique terrible du Dieu vivant, il s'agit d'une terreur respectueuse du Dieu vivant. On le sert avec respect, avec un respect profond. On n'a pas peur de lui parce qu'il nous aime, mais on le respecte profondément, plus que nos épouses, nos époux, nos enfants, nos parents. Dieu, on l'honore, on le met à la première place. On parle de lui avec un saint respect. Et puis, quand on le craint comme ça, notre vie change, elle est impactée parce qu'on veut lui plaire. Et donc, deuxièmement, la sagesse, ce n'est pas donc de la théorie, la sagesse n'est pas de la philosophie. On ne s'assoit pas là pour méditer, réfléchir simplement, abstraitement sur Jésus. La sagesse, c'est le fait de posséder une certaine aptitude, une certaine capacité pratique. On met en œuvre avec habileté ce que l'on sait. Et donc oui, on a des tas de connaissances sur Jésus, sur son amour et sa grâce. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans ma vie de tous les jours, je vais voir comment appliquer, comment démontrer l'amour de Jésus. Il m'a aimé plus que quiconque dans ce monde-ci. Laisse-moi aimer en particulier les gens qui le détestent. Laisse-moi trouver des moyens, laisse-moi réfléchir à des méthodes pour faire en sorte que les gens qui détestent Jésus puissent découvrir son amour à travers moi. Et les méthodes ne sont pas compliquées, hein, mes amis. J'ai parlé à quelqu'un cette semaine qui a simplement dit, quand je prends le bus, je me suis fixé pour règle de toujours parler à la personne qui est à côté de moi. Et pas forcément parler de l'évangile, tout de suite lui sortir un verset. Tu sais que tu vas en enfer? Non. Non. C'est pas ça le but. Et cette personne me racontait, je me suis assis dans le bus, avec quelqu'un à côté de moi, j'ai dit bonjour. La personne ne m'a pas entendu parce qu'elle avait ses écouteurs. Alors moi, j'ai insisté, j'ai fait « Bonjour !» La personne a répondu de manière gênée « Bonjour, on se connaît ?»« Ben non, pas du tout, mais j'ai décidé de vous dire bonjour et puis de faire connaissance, on va jaser un peu, on est dans le bus. » Ils ont mené leur conversation. Et vous savez ce que la personne qui était à côté du chrétien là a dit? Il a dit, cette personne a dit, vous êtes probablement l'une des seules personnes à qui j'ai parlé là cette semaine. Et heureusement qu'on a eu cette conversation. On n'a pas sorti de verset, hein? Peut-être qu'il n'a même pas eu le temps de lui parler de Jésus, mais cette personne a eu la grâce de Dieu un moment là dans sa vie. C'est ça être chrétien, c'est ça être sage. Ce n'est pas être un philosophe, c'est mettre en pratique ce que je sais de Jésus. Et Paul donc souligne que la connaissance ne peut pas être une accumulation de connaissances intellectuelles. Donc nous n'avons pas d'effort de persévérance à faire. Le salut ne se perd pas, mais je démontre que je suis sauvé. Il me faut terminer très rapidement. L'Écriture est inspirée de Dieu, verset 16, utile pour enseigner, convaincre, redresser, éduquer dans la justice. L'Écriture est inspirée. Notre traduction n'est pas forcément heureuse, parce que le terme grec, c'est tout l'inverse. Elle est expirée, elle est soufflée. Dieu a soufflé l'écriture dans l'esprit des auteurs. La Bible que vous tenez entre les mains a été le produit de l'esprit de Dieu qui a guidé chaque ligne, chaque livre, chaque mot dans les langues originales. Je rappelle, la Bible n'a pas été écrite en français, en anglais. Elle a été écrite en grec, araméen, hébreu. Et nous croyons que ces manuscrits originaux sont parfaits. La Bible ne comporte aucune erreur doctrinale ou autre. Tout ce qu'elle contient est digne de confiance. Plus de 3000 fois dans la Bible, il est écrit « Dieu dit ». De sorte que nous ne disons pas qu'il y a certaines parties qui sont inspirées, qui viennent de Dieu, et puis d'autres, non. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Vous pouvez faire confiance à toute la Bible. Mais voilà, ce n'est pas le but premier de Paul. Paul n'est pas venu expliquer l'inspiration ici. Il est venu rappeler à Timothée que puisque la Bible, c'est le mot de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous annonce Jésus, elle a des capacités que la parole humaine ne possède pas. La Bible nous enseigne. Elle est notre base d'enseignement. Nous faisons des explications, des applications à partir de la Bible, pas à partir de la tradition, pas à partir de d'autres livres. La Bible nous convainc, elle nous corrige. La Bible a la puissance en elle-même de dénoncer et de réfuter les erreurs des humains. Si vous la lisez tout seul dans votre coin, la Bible va commencer à vous parler, elle va commencer à vous dire des choses sur vous qui ne vont pas vous faire plaisir. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous prenez votre Bible et puis elle va appuyer sur les boutons sur lesquels vous ne voulez pas qu'on appuie. Elle va vous parler de patience si vous êtes impatient. Elle va vous parler de douceur si vous êtes un colérique. Elle va vous parler de pardon si vous êtes dévoré par la haine parce qu'on vous a fait du mal. La Bible corrige. La Bible redresse aussi. Elle rectifie. Elle soigne. Elle donne non seulement la lumière pour convaincre ou comprendre, pardon, ce qu'on a fait de mal, mais elle donne aussi le pouvoir de l'éviter et de le rectifier. Si vous lisez la Bible, si vous demandez à Dieu son aide, si vous cherchez à appliquer ses principes, elle va transformer votre vie. Toute seule. Elle a cette capacité-là. La Bible, finalement, éduque, c'est-à-dire qu'elle forme, elle discipline. Comme un enfant, on veut lui apprendre à dire bonjour, au revoir, merci, à être respectueux. Bon, ben, la Bible, c'est la même chose. Elle a un système de discipline qui nous mène à vivre de façon sainte. Tout cela pourquoi ? Pour que nous soyons entiers, préparés, adéquats pour faire de bonnes œuvres, pour glorifier Dieu, pour contrecarrer les faux enseignements et pour partager l'Évangile à ceux qui sont autour de nous. Rapidement, quelques mots d'application. Si la persécution est un fait normal de la vie du croyant, nous devons nous y préparer. Et vous savez comment nous nous préparons à la persécution ? Eh bien, nous avons creusé un bunker en dessous de l'église et... Non, ce n'est pas ça du tout. Les anciens n'ont pas de plan de contingence. Si le gouvernement a envoyé la GRC là, nous arrêter, on n'a pas de plan, chers amis. Le seul plan qu'on a, vous savez, le seul plan qu'on a, c'est qu'on va continuer à prêcher. C'est tout. Venez me voir en prison, quand même. Mais le seul reste du plan, et puis il faut aider Unée quand même, elle sera toute seule. Mais le reste du plan, c'est qu'on continue. On continue. Et pendant qu'on ne nous a pas arrêtés, pendant qu'on ne nous a pas persécutés, vous savez ce qu'on continue à faire? On continue à aimer nos ennemis et à leur annoncer « Jésus est mort pour toi aussi ». C'est ça le seul plan. C'est ça la seule préparation. On annonce « Jésus-Christ mort, ressuscité pour l'humanité. Deuxièmement, concernant la parole de Dieu, chers amis, il nous faut lire, il nous faut comprendre, il nous faut appliquer l'Écriture. On ne pourra pas devenir mature si on ne lit pas la Bible souvent. Et chers amis, je sais que vous avez des vies compliquées et vous allez me dire, « Jean-Élie, c'est facile pour toi, tu ne travailles que le dimanche matin, tu n'as pas grand-chose à faire. En fait, on te paye pour ouvrir ta Bible tous les jours. Si tu ne le fais pas d'ailleurs, ce serait grave. » Oui, je sais, ok. Mais si je puis me permettre, et je ne dis pas pour me vanter, mais avant de venir ici, là, pour ouvrir ma Bible, je l'ouvre pour moi. Pas pour vous, je l'ouvre pour moi, parce que j'en ai besoin. Elle me fait vivre, elle me donne l'espérance dans les difficultés, elle me transforme. Quand je n'arrive pas à entendre une parce qu'elle me dit les choses à changer, je ne l'écoute pas, la parole de Dieu me dit, Jean-Élie, il faut changer. Ne sois pas rebelle. Il faut lire l'Écriture, il faut la lire souvent. Si je dois vous encourager, j'ai lu la Bible jusqu'à 10 fois. Après 10 fois, j'ai arrêté de compter. J'ai été sauvé à l'âge de 10 ans, j'ai commencé là, j'ai 47 ans cette année. J'ai jamais arrêté. Et chaque fois, je découvre quelque chose de neuf, de bon, de beau. N'arrêtez pas de lire la Bible. Spurgeon disait que si on vous perce, si on donne un coup d'épée à un chrétien, normalement il devait saigner la parole de Dieu. Tellement il en est rempli. Lisez la Bible, lisez-la dans des versions compréhensibles. Lisez la seconde 21, lisez la Summer, lisez des versions qui vont vous aider à appréhender, à comprendre le texte. Oui, il faut qu'elle reste près des versions originales, certes. Mais vous ne pourrez jamais appliquer ce que vous ne comprenez pas. Si vous n'aimez pas lire, écoutez la Bible. Il y a des applications pour ça. Demandez à Dieu d'agir en vous par sa parole. En conclusion, j'ai lu l'histoire d'un homme. C'est un ouvrier sur un chantier. Il était spécialisé dans la menuiserie. Et l'une de ses aspirations, l'un de ses rêves, c'était de travailler comme grouillier. Vous savez, de travailler dans les grues, là. Il disait, si je pouvais faire ça, ce serait bien. Et puis un jour, pendant qu'il travaillait sur un chantier, il y a un des poids où l'un des fardeaux qui était sur une grue, qui a lâché, et puis qui lui est tombé dessus. Vertèbre fracturée, poumon percé, a été hospitalisé pendant des mois. La seule chose qui l'a sauvé, c'était son casque. Il a dit, si je n'étais pas bien équipé, je serais mort. Chers amis, pour être équipé dans la persécution, dans vos temps difficiles, lisez la parole, aimez la parole. À travers la parole, vous découvrirez Jésus, le seul, le vrai, l'unique, celui qui vous aime suffisamment pour mourir et ressusciter pour vous. Alors que vous ne le connaissiez même pas. Que le Seigneur équipe son Église et qu'il puisse aussi sauver ceux qui ne le connaissent pas encore. On va prier. Seigneur, merci de nous faire grâce ce matin. Merci pour ta parole, elle est la vérité. Merci Seigneur, parce que par elle, jusqu'à maintenant, tu continues de changer, de transformer des vies. Et je veux prier pour tous mes frères et mes sœurs qui souffrent, peut-être en silence, de persécution, éventuels ou travaillent dans leur famille. Je prie que tu les relèves et que tu les encourages. Que tu leur rappelles que tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus seront persécutés. Et qu'ils ne soient pas abattus, mais qu'ils reprennent courage et que par la force que va donner ta parole, ils continuent de démontrer l'amour de Jésus à tous ceux qui les détestent. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui ne lisent pas ta parole parmi nous. Certains ne la lisent pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne te connaissent pas encore. Je prie que tu fasses naître en eux une soif de toi, de te connaître, et que ta parole change leur vie. Je prie pour tous les chrétiens qui n'ont pas pris au sérieux, Seigneur, ta parole et son pouvoir de transformation, de guérison. Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui soit le temps du changement et que ta parole puisse corriger, convaincre, mais qu'elle puisse aussi redresser, guérir et entraîner pour la justice tous tes enfants, toute ton Église. Et cela, je te le demande humblement dans le nom de Jésus. Amen.